I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Channel Random, le numéro 17. Je m'appelle Alain Mathé, mais écoutez, Raphaël Masmejean. Raphaël, bonjour.
Salut Alain, salut à tous.
Raphaël, émission un peu particulière avant Noël, puisqu'on ne va pas vraiment être... Est-ce que je dis on ne va pas être dans le concret? Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, parce qu'on va être beaucoup dans l'imaginaire.
Oui, je pense qu'effectivement là on est plus sur l'ouverture à l'imaginaire, peut-être pas la rêverie, n'allons pas jusque-là, mais effectivement, vous risquez pas d'apprendre grand-chose sur celui-là, je pense. Mais...
Quoique,
c'est vrai.
On va être dans l'imaginaire. Alors, tu as eu l'idée, je te laisse expliquer.
Alors, je sais plus exactement d'où est venue l'idée, mais on avait évoqué à un moment le fait de faire un sujet autour du voyage dans le temps, parce que le voyage dans le temps est quand même une thématique assez... qui revient pas mal dans la pop culture, que ce soit au cinéma, dans les livres, qui a même inspiré, qui inspire forcément la science, la philosophie. Enfin voilà, c'est quand même un sujet assez vaste, assez qui ouvre totalement l'imaginaire. Qu'est-ce que je ferais si je pouvais retourner dans le temps? Où j'irais? Est-ce que j'avancerais? Est-ce que je reculerais? Bref. Donc voilà, on s'était dit que ça pourrait être marrant de discuter autour de ce sujet et voilà.
On va donc voyager dans le temps, et on le précise dès le début de l'émission d'ailleurs, si vous écoutez, c'est une dernière émission un peu spéciale avant une petite pause. On se retrouvera probablement au mois de mars, on a pas mal de boulot sur janvier, février, donc on a préféré marquer une petite pause plutôt que... Enfin, on veut faire ça proprement, donc on préfère avoir le temps, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc voilà, petit générique et on voyage dans le temps. La bande originale, évidemment, du plus grand film de voyage dans le temps de l'histoire, je pense qu'on peut le dire.
Oui, je pense que là, on risque pas grand-chose à le dire.
On risque pas grand-chose à dire, en effet, que c'était la BO de Retour vers le futur, évidemment, pour les plus jeunes d'entre nous qui ne connaîtraient pas, et on vous invite évidemment à regarder ce film de 1985. Raphaël, est-ce que tu sais de quand date la première mention du voyage dans le temps dans la littérature?
La littérature, à mon avis, c'est assez loin, hein. Je pense qu'on peut remonter... Je serais pas étonné qu'on en parle dès l'Antiquité, en fait.
Alors, moi, ce que j'ai, ce serait, c'est source Wikipédia, c'est la première mention d'un voyage dans le temps serait le personnage de Merlin l'Enchanteur dans le cycle arthurien des Chevaliers de la Table Ronde qui visitait les temps passés. On rappelle les règles.
il faut des règles.
Voilà, il faut des règles. On ne risque rien, on a dit ça.
Tout à fait.
On observe, mais on n'influe pas, c'est ça aussi?
Ouais, on n'influe pas, donc c'est pas parce qu'on se retrouve dans une époque qu'on va changer le cours de l'histoire. Enfin, le but, en gros, on peut le dire directement, c'est pas d'aller tuer Hitler quand il naît, quoi, voilà. Non, oui, parce que c'est souvent des fantasmes du retour dans le temps, tout ça, donc nous n'avons pas de poids sur l'histoire, quoi.
Tu sais que c'est un des grands dilemmes aussi. Où est-ce que j'avais vu ça? C'est pas un peu une sorte de mème internet, genre si t'avais le choix de tuer Hitler bébé, est-ce que tu le ferais? Parce que d'un côté, tu tues un bébé, mais de l'autre côté, tu tues Hitler. Tu as une sorte de dilemme moral horrible. Oui, alors il y a ça. Et du coup, alors tu viens de m'enlever une de mes potentialités. J'ai pas le droit d'aller dans le futur dans une semaine pour avoir les chiffres de l'euro million.
Si tu veux, tu peux le faire, on peut le dire, mais bon, ça a moins de...
Je viens de réaliser que ce serait probablement l'utilité principale du truc, c'est d'aller dans le futur dans une semaine et de choper les chiffres de l'euro million. C'est l'almanach des sports, en fait, d'ailleurs, de Retour vers le futur. Donc, on ne risque rien, on est en touriste. Faut quand même qu'on s'adapte aux conditions de vie de l'époque, parce que je le dis aux auditeurs, je l'ai dit à Raphaël dans la préparation de l'émission, que personnellement j'avais un petit problème avec l'hygiène de certaines époques et qui m'empêchait même, tu vois, ça me grattait rien que de penser à l'hygiène de certaines époques.
Non, mais je me doute que ça te faisait cet effet-là. Moi je dirais on s'y adapte, mais par contre disons qu'on n'est pas impacté, dans le sens où c'est pas parce qu'on se téléporte dans le passé avec notre micro-organisme du 20e siècle qu'on meurt directement au Moyen-Âge parce que c'est trop sale, tu vois. Enfin, disons qu'on est en condition pour vivre comme quelqu'un de cette époque, en fait, tu vois.
Ça marche. Bon, mais tu chopes pas le typhus, c'est déjà ça.
Pas tout de suite.
c'est déjà une bonne chose. On articule l'émission donc autour de trois questions. Quel personnage historique tu rencontrerais pour un dîner ? Quel événement tu aurais aimé vivre ? Et à quelle époque tu aimerais faire un tour ? On précise, on peut choisir des époques différentes pour chaque catégorie. Ça permet quand même de faire un peu plus sympa. On n'est pas obligé de faire un tout, c'est-à-dire je vais aller à telle époque rencontrer tel mec pour vivre tel événement. On peut séparer, ce qui permet quand même de visiter plus de choses aussi, parce que c'est quand même plus drôle si on a une machine voyage dans le temps.
Oui.
Voilà. Autant aller voir plein de trucs. On commence par le personnage historique ?
Allez.
On commence par le personnage historique. Tu as eu l'idée, alors je te laisse me dire à qui tu pensais, en fait, qui tu voulais aller voir pour dîner avec
lui. En vrai, pour être tout à fait honnête, j'avais un peu une shortlist déjà dans ma tête de personnages, tout ça, de gens avec qui j'aurais bien partagé un petit casse-croûte, on va dire. Hein. N'allons pas plus loin qu'un casse-croûte, mais déjà, je m'étais dit que ça serait pas mal. Après beaucoup de réflexions, en fait, j'ai fini avec deux hommes que je n'arrive pas vraiment à départager, parce qu'en fait, on est sur un peu deux opposés en termes de peut-être pas d'impact, mais deux opposés sur de façon de vivre, d'héritage, on va dire. Donc du coup, voilà, je vais garder les deux, tant pis, mais je vais essayer de vous expliquer le pourquoi. Alors le premier, c'est Gengis Khan. Le fameux empereur mongol qui est le fondateur de l'empire mongol. Donc on est, pour vous donner une idée, on est sur un personnage historique qui est né autour des années 1150, 1155. Il y a toujours un peu des doutes sur sa date de naissance, forcément, voilà. Et qui est mort en 1227. Par contre, sur sa mort, on est un peu plus certain. Pourquoi Gengis Khan ? Alors déjà, il faut savoir que c'est quand même le fondateur de l'empire qui sera le plus étendu de l'histoire de l'humanité. L'empire mongol est celui qui sera le plus grand, allant de la mer des côtes chinoises du Pacifique à quasiment l'actuelle mer Caspienne. Donc on est vraiment sur un sacré empire. Et alors pourquoi ? Donc c'est vraiment un personnage hyper important dans l'histoire de l'humanité, dans le mythe vraiment à cette époque-là autour des Mongols, de cette horde barbare qui a appelé barbare en tout cas par les Occidentaux, même les Orientaux, tout ça, qui ont dominé le monde, qui ont rasé aussi toute une partie de gens, d'espace. On estime quand même que ces guerres ont tué plus de 40 millions de personnes sur Terre.
C'est ce que j'allais dire, je connais pas très bien, c'est pas un tendre a priori.
Non, c'est pas un tendre, c'est un vrai guerrier. Si, pour faire rapidement son rapide, on va dire, historique, donc il est le fils d'un chef de tribu mongole. Il est envoyé, quand il est jeune, il est envoyé dans sa belle famille, auprès de la fille qu'il doit épouser, sauf que son père meurt, lui est trop jeune pour reprendre les rênes du clan, et du coup, en fait, il va devoir partir en exil très jeune. Avec sa mère et ses frères et sœurs. Il va être réduit à l'esclavage. Voilà, donc jeunesse compliquée. Et puis tout d'un coup, quand il redevient un jeune homme, son but principal, c'est la vengeance. Donc il se venge d'à peu près tout le monde, des autres tribus mongoles, etc., qui ont pu tuer son père, qui ont kidnappé sa femme aussi pendant un an. Bref, sacré parcours de vie. Et au final, on part de ce petit gamin enlevé et mis en esclavage, qui va régner sur un territoire absolument sans pareil.
J'ai l'impression qu'il a poussé le concept de Kill Bill très très loin, quoi.
Ouais, ah oui, non, mais la vengeance, c'est tout un art, là, à ce niveau-là. Voilà, puis il a. Donc bon, on est quand même sur un personnage assez intrigant, à mon sens, et j'aimerais bien discuter avec. Comprendre d'une personne comme ça comment, avec ce qu'il a vécu, il s'est donné pour volonté de régner comme ça sur une partie du globe. Et en plus, c'était une vraie volonté. Il s'est toujours persuadé que, enfin, dans ce qu'on en sait des écrits, tout ça, il s'est toujours persuadé que il aurait un rôle très important sur Terre. Et il est allé jusqu'au bout, on va dire, de cette idée-là. Tout à l'heure, je parlais des 40 millions de morts. Il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, c'est environ 15% de la population mondiale. Hein.
Oh la vache! J'avoue.
Et d'après des historiens, tout ça, une des raisons pour lesquelles il allait aussi loin là-dedans, c'est que... alors, bon, c'est toujours à prendre des pincettes, ce genre de recherche, tout ça, mais selon eux, il avait la volonté de créer ce qu'on appelle les steppes éternelles, en fait, de remettre l'humanité au rang de nomade, en fait.
D'accord.
De détruire les villes et que tous les humains reviennent des peuples nomades, tout ça, et donc il fallait qu'il y ait moins de gens sur Terre, et visiblement, d'après certains historiens, il aurait pu être influencé aussi par ça, quoi.
D'accord. Ah oui, c'est un retour à la Terre un peu agressif, ouais.
Ouais, mais voilà, en fait, moi, ce qui me fascine, du coup, c'est ce parcours de vie, le côté guerrier, parce que c'est un grand stratège, tout ça. Enfin, vraiment, il a unifié des tribus qui, jusque-là, étaient nomades, qui n'avaient pas de chef. Il a unifié toutes les tribus mongoles. Et en même temps, il a aussi innové avec... c'est lui qui a permis de renforcer tout ce qu'on appelle le système des routes de la soie. C'est lui qui a mis en place plus ou moins... l'ancêtre des postes, on va dire, en fait, avec un vrai réseau de postes. Et il a été, alors, je sais pas si on pourrait dire féministe, n'allons peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, il a fait des lois pour protéger les femmes. Interdiction de les enlever, parce que c'était la tradition mongole quand même, c'était d'enlever les femmes.
Classe.
Donc, interdiction de les enlever. Interdiction de l'adultère. Et interdiction d'empêcher les filles d'être héritières, en fait. Il a empêché.
D'accord.
Parce que, juste, je rappelle quand même, hein, pour donner un petit peu de contexte, en France, c'est seulement au 20e siècle. Attends, je retrouve, voilà. En France, c'est seulement à partir de 1971 qu'on n'a plus le droit d'interdire une fille d'être héritière.
D'accord.
Voilà.
Ouais. Je me rappelais que c'était déjà tard pour avoir un chéquier.
Donc tu vois, bon, voilà. Et puis c'était un mono. Enfin, il était bouddhiste, mais apparemment, il prenait vraiment une grande. Une des caractéristiques de son empire, c'est qu'il n'a jamais forcé les peuples à se convertir à sa religion, à apprendre la langue. Enfin, voilà, c'était l'idée de. Chaque peuple avait ses particularités au sein de son empire, il a accepté totalement, mais par contre, il fallait juste payer le tribut financier, on va dire. Donc bref, un conquérant, donc voilà, moi ça m'intriguerait bien de passer un repas avec peut-être celui qui est le plus grand conquérant de l'histoire, quoi.
D'accord, ouais, bah, donc on est au 13e siècle, au 12-13e siècle.
Ouais, 12-13e siècle, et pour donner juste une petite idée quand même, le Washington Post, qui est un média assez sérieux quand même, qu'on peut considérer comme un média bien sérieux, l'avait nommé homme du millénaire dans une étude de 1995.
Ah oui, quand même.
Donc ça c'est... place le bonhomme.
C'est sûr, c'est quand même un... Oui, ça place le bonhomme. Et du coup, t'hésites avec qui? Alors, parce que si tu me dis ces deux opposés, ça veut dire que l'autre est un...
Alors,
parce que là on est sur du,
ouais.
du conquérant un peu énergique, voilà, on va dire. Donc l'autre a l'air plus calme.
L'autre était beaucoup plus calme. Je vais faire plus court, mais c'était Victor Hugo.
D'accord.
Parce que Victor Hugo, c'est vraiment l'homme peut-être français qui incarne le plus le 19e siècle, qui est un siècle passionnant où il se passe beaucoup de choses, beaucoup de changements de régime, beaucoup de... Voilà, c'est aussi le début des révolutions industrielles, donc c'est quand même une période historique extrêmement importante. Et Victor Hugo, par ses écrits, par ses prises de position, parce qu'il naît quand même dans une famille royaliste, puis au final, il finit par être candidat sur des listes socialistes en tant qu'homme politique. Donc pour moi, c'est vraiment celui qui représente le mieux peut-être l'histoire vraiment du 19e siècle. Un pro-européen avant l'heure, abolitionniste contre la peine de mort, combat sans cesse contre les inégalités sociales, pour le droit des femmes, alors dans les limites de l'époque. Hein, je ne suis pas sûr qu'il était pour absolument tout ce qu'on pourrait appeler le féminisme en 2020. Je pense qu'il faut savoir... Enfin voilà, mais pour l'époque, en tout cas, des positions plutôt avant-gardistes dessus...
Tu veux dire qu'il ne faut pas juger tous les personnages historiques selon les critères de 2020?
Voilà, entre autres, je pense notamment que c'est pas mal.
C'est dingue.
Donc voilà, je pense que c'était vraiment une personne assez passionnante à mon avis, vraiment intéressante. La chance, tu peux faire toute une soirée de discussion avec lui et ça doit être ultra passionnant. Faut quand même rappeler que quand il meurt en 85, il y a 2 millions de personnes à ses funérailles à Paris. Vraiment avec un cortège assez monstrueux, tout ça. Donc voilà, comprendre ce parcours, son œuvre littéraire incroyable. Donc j'aurais mis Victor Hugo, tu vois, on n'est plus dans le pisse là, on est plus dans le...
Mais tout aussi barbu, je sens une tendance.
C'est vrai.
Entre Jean Giscane et j'étais en train de me dire, c'est pas tout à fait la même impact littéraire, mais 2 millions de personnes dans les rues, il y a Johnny Hallyday aussi hein, pour les funérailles à Paris.
Ouais, voilà, bon.
Donc, bon. Mais ouais, non, c'est intéressant. Après, comme tu le dis, Victor Hugo, c'est quand même un monument de la littérature française. Donc oui, je comprends bien. Oui, après, et alors, c'est vrai que ça permet de préciser une règle. Tiens, d'ailleurs, que tu as choisi Victor Hugo et Jean Giscane, on n'a pas précisé, mais évidemment que dans nos voyages, on a le don de parler la langue instantanément.
Oui, bien sûr.
Parce que le Mongol du XIIe siècle, a priori, sinon, c'est un peu compliqué de passer un dîner tranquille, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Non, bien sûr, on se met en contexte. On a tous les outils, on va dire, pour pouvoir échanger avec les personnes...
Avant de donner les miens, je vais donner un peu ce qui se disait dans la rédaction de Touch en Actu, parce qu'on a sondé un peu la rédaction. Il y avait du Léonard de Vinci, Albert Einstein, Nelson Mandela et Napoléon. Alors j'ai pensé à Napoléon aussi, d'autant que je suis en plein, je reviendrai un peu là-dessus dans les recos, mais je suis en plein documentaire sur Napoléon en ce moment. Donc clairement dans le côté conquérant, stratège.
Ouais. Oui, j'y ai pensé, ouais. Il faisait partie de ma shortlist, hein, clairement.
Ouais. Il y a des choses vraiment intéressantes. Moi, je suis allé aussi vers deux opposés. C'est pour ça que ça m'a fait sourire quand t'en parlais, parce que je suis vraiment, vraiment là-dedans. Alors moi, c'est deux opposés, mais de la même époque, de la même période, impliqués dans le même conflit.
Ah, ok.
Et là, tu me vois venir.
Ouais, je pense.
Alors, je vais commencer par le premier, qui est le plus soft. C'est Jean Moulin. Parce que récemment, il y a son nom m'échappe, mais son secrétaire était décédé. Il y avait eu beaucoup de documentaires. Je regardais ça avec beaucoup d'intérêt. Et d'autant que, alors, je sais que, enfin, si je me permets de le divulguer, hein, j'espère que tu m'en voudras pas, mais donc tu as un passif d'historien, puisque tu as fait des études d'histoire.
Je sais pas si j'irai jusqu'à historien, mais.
Non, mais tu vois, tu as beaucoup plus de connaissances en histoire que moi. J'avoue que moi, niveau histoire, je suis très axé Deuxième Guerre mondiale et j'ai un peu de mal à être sensible à d'autres époques qui sont plus abstraites pour moi, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais c'est normal.
Sans avoir eu de témoignages directs comme j'ai pu en avoir pour la Seconde Guerre mondiale ou même d'images. Voilà, donc c'est plus dur à me figurer. Donc c'est vrai que je me suis tourné assez vite vers ça. Et Jean Moulin, en fait, ce serait vraiment pour discuter avec lui, avec tous ses résistants. Encore une fois, comment tu vis ça, quoi ? C'est-à-dire que j'étais fasciné par les récits de résistants dans les documentaires, justement, que j'ai vus récemment. Par la manière dont ils le vivaient, c'est-à-dire qu'il y a plein d'approches, quoi. Il y en a qui acceptaient la mort, qui étaient vraiment sur cette démarche de dire... Moi, j'y allais et voilà, je savais que j'allais mourir pour quelque chose et on savait que ça pouvait arriver. Mais en même temps, cet extrême danger permanent, ce à quoi tu t'exposes, et encore une fois, ce courage qu'il faut, parce que tu es dans un pays où on a capitulé, la France est occupée, les gens, pour certains, continuent à vivre leur vie, d'autres collaborent même avec l'ennemi. Et toi, tu es là, tu es tout seul quand même au milieu de tout ça, quoi. T'es vraiment directement en terrain ennemi et tu te dis, je vais continuer. Et c'est vraiment une force psychologique que je trouve incroyable et vraiment folle. Et tu vois, j'ai pensé à un moment De Gaulle, mais je suis plus intéressé par les gens qui étaient encore dans le cœur du truc. Je dis pas que De Gaulle est pas passionnant, hein. Si j'ai le choix, je veux bien, dîner avec lui sans problème tous les jours. Mais. Je veux dire, je suis encore plus admiratif de ces gens qui étaient en fait sous les ordres de De Gaulle et qui y allaient avec ce truc de voilà, on peut tomber à tout moment, on peut se faire capturer à tout moment, on va être torturé, on va être...
Oui, surtout qu'une partie d'entre eux, et notamment Jean Moulin, on est sur des gens qui étaient fonctionnaires ou dans la vie civile, donc qui du coup n'avaient pas forcément, peut-être, même si ça se discute, mais peut-être pas comme De Gaulle, une sorte de conception du devoir en tant que militaire, en tant que de pas se rendre, donc qui pouvaient peut-être avoir une vision un peu plus, on va dire, facile pour être dans la résistance que des civils ou des fonctionnaires qui vraiment ont fait le don de soi et de leur personne pour ce qu'eux estimaient une cause juste. Et clairement, ça fait partie des engagements les plus impressionnants, clairement. Donc, c'est sûr que discuter de ça, je comprends totalement l'idée. Ouais.
Et c'est Daniel Cordier, hein, son secrétaire, qui est mort récemment. Et en plus, il y a ce côté aussi de mobilisation d'hommes qui venaient d'horizons différents. Autour d'un même but, parce que Jean Moulin était plutôt à gauche, si je dis pas de bêtises, et par exemple Daniel Cordier avait commencé plutôt dans des sensibilités d'extrême droite, et puis finalement s'était rallié avec d'autres gens. Enfin, il y avait quand même des attelages assez improbables, ouais. Dans la résistance, et voilà, moi c'est vraiment quelque chose qui me fascine, et donc oui, Jean Moulin, je pense que ce serait tout en haut de ma liste. Du coup, le deuxième est l'exact opposé, et on en avait parlé pendant un peu la préparation. Ça fait peut-être morbide, ça fait peut-être bizarre, mais du coup, c'est de la curiosité. Bah oui, Adolf Hitler, quoi. C'est-à-dire que, en fait, moi, c'est de la curiosité, peut-être malsaine, hein, mais c'est l'incarnation absolue du mal.
C'est la figure absolue, ouais, bien du sûr, mal. Oui, t'as raison.
Donc. Moi, je sais pas si c'est un côté curiosité journalistique. C'est l'incarnation du mal le plus complet au 20e et 21e siècle. C'est la référence ultime.
Voire presque de l'histoire de l'humanité au point où on en est.
Oui, c'est vrai. Voilà. Et je suis curieux. Et en plus, si tu veux, je suis en pleine lecture de la biographie d'Albert Speer, qui était l'architecte du Troisième Reich, qui était très proche d'Hitler, qui était un passionné d'architecture. Et donc, du coup, Speer avait une sorte de proximité avec lui, parce que Hitler voulait beaucoup parler d'architecture et faisait des dessins et lui présentait ses dessins. Et voilà. Donc, il y avait un truc un peu comme ça. Et du coup, dans la bio, ce qui me le rend encore plus curieux, c'est que dans la bio de Speer, et ben en fait, ça a pas l'air d'être un personnage si terrifiant que ça. Tu vois, il est un peu insignifiant dans le privé.
Oui. Non, mais c'est d'ailleurs c'est ce que j'allais dire. C'est pour ça que moi, c'est pas forcément un choix qui m'aurait. Je comprends la logique derrière de à quelque part discuter avec ce qui est l'incarnation du mal, et ça, c'est le côté intéressant. Mais en vrai, apparemment, c'était vraiment pas un personnage très intéressant, ni très intelligent, ni particulièrement. Alors, c'est compliqué de dire qu'il est pas charismatique, parce qu'il a totalement conquis les foules, et d'ailleurs il a conquis le pouvoir de manière absolument plus ou moins, enfin je veux dire, son parti est élu de manière démocratique, tout ça, donc il avait forcément une part de charisme en public, mais visiblement effectivement dans le privé c'était pas forcément quelqu'un de remarquable, en fait, donc c'est
mais en fait, ce que tu dis là, c'est très très bien résumé dans la bio d'Albert Speer, et c'est tout le paradoxe d'ailleurs de sa bio. C'est que en gros, Speer t'explique qu'il était sous le charme de ce mec là après ses interventions, quand il l'a découvert, et que publiquement il est complètement subjugué par ce qu'il voit, et il a envie de suivre ce mec, etc. Mais en même temps, une fois qu'il est dans le cercle privé, il te raconte l'ennui mortel des soirées au Berghof, où c'est tout le temps la même chose, on bouffe la même chose, où c'est dans le même ordre, où on fait les mêmes balades, où on a les mêmes gens, où ils se couchent à la même heure, et tout le monde s'ennuie. C'est-à-dire que tous les dignitaires qui se sont installés sur cette montagne, qui ont leur petite villa, leur machin, et qui se retrouvent pour manger chez Hitler le soir, s'ennuient profondément, parce que c'est tout le temps les mêmes rituels, tout le temps les mêmes trucs. Et comme tu dis, il y a vraiment ces deux trucs dans la bio, c'est-à-dire qu'il est fasciné par ses projets gigantesques. Par
le Reich de Milan,
voilà,
tout ça.
Les immenses constructions qu'ils veulent faire, marquer, etc. L'attrait public, des grands discours, des machins. Mais en même temps, dans le privé, bah, ce mec qui est un peu, il a sa cour, il a ses gens qui essayent de se placer autour de lui, et puis il est un peu, il parle, il a ses préférés, il a ses trucs, il se moque un peu d'un tel ou un tel, et puis, et en fait c'est vraiment presque même la curiosité pour, pas être déçu, parce que c'est pas le mot, j'en attends rien, je sais pas comment le dire, mais tu vois ce que je veux dire, non mais justement, de dire, mais le mal en fait, il est très banal, quoi.
Ouais, non, mais je... Ouais, j'entends totalement ce que tu dis, mais... Je réfléchis à haute voix, du coup, c'est pas très podcast, je sais, faut pas le faire, mais effectivement, c'est...
Non, puis il faut que tu parles pour couvrir les travaux.
Ouais, c'est ça, et il y a une perceuse aussi, désolé. Moi, c'est ça qui me retenait vraiment de le choisir, c'est ce côté très chiant, en fait. J'ai peur que tu tournes... Une fois que t'as compris juste que c'est un taré, le repas tourne vite.
C'est vrai.
Ouais, tourne vite en rond, quoi.
Je suis curieux, dans le malaise, je peux tenir longtemps. d'ailleurs, j'ai pas mentionné, mais Winston Churchill serait en 2 bis hein, sur ma liste niveau Deuxième Guerre mondiale.
Voilà, et tu vois, lui, typiquement, pour le coup, c'est vraiment quelqu'un qui est réputé pour être plutôt intellectuel. Enfin, voilà, intellectuel. Je pense que t'as beaucoup plus de choses à évoquer avec lui que. Ouais.
Puis je parle mieux anglais.
Aussi. Non, mais voilà, tu fumes un petit cigare avec lui, tu commences à parler de ses livres, de ses peintures, et puis il te parle de la guerre. Enfin, je pense que c'est un peu plus.
Non, mais tu vois, je mets Jean Moulin en un pour tout ce qu'on a dit.
Non, mais
Adolf Hitler pour la curiosité malsaine et Winston Churchill pour le symbole. Je devrais pas dire ça, c'est pas bon français, mais c'est vrai que je suis un peu plus intéressé par Churchill que De Gaulle. En termes de symbole de la guerre, de la résilience, de la roublardise. Je sais pas, il y a un truc chez Churchill qui est quand même hyper fascinant. Donc voilà, c'est pour les deux. Je l'ai dit donc dans la rédac, oui, j'ai dit Léonard de Vinci, Albert Einstein. Bon, il y avait beaucoup de choses.
Ça se comprend. C'est vrai que Léonard de Vinci, t'es sur une personne assez.
C'est vrai. Mais moi, je me sens trop bête pour parler à Albert Einstein, par exemple. Je me dis, mais qu'est-ce que je lui dirais, tu vois.
Bon, salut Albert.
c'est franchement, tu vois, je sais pas quoi dire.
Je vois ce que tu veux dire.
On passe à l'événement qu'on aurait aimé vivre. Alors, là, je te mentionne un peu ce qui s'est dit. Tiens, je commence par la rédaction.
Allez.
On nous a dit l'homme sur la lune, la première fois que les frères Lumière ont diffusé un film, la construction des pyramides. Bon, après, si vous avez écouté notre émission sur les complots, les pyramides, c'est les Illuminati ou les extraterrestres. Donc, c'était pas très facile d'y assister. Je te laisse commencer. Qu'est-ce que t'aurais aimé vivre comme événement?
Je reviens, j'aime bien l'idée du premier film projeté par les frères Lumière. Effectivement, ça devait être marrant la première fois où les gens ont vu ce truc projeté sur un écran et le train qui arrivait en mouvement. Visiblement, les gens criaient dans la salle. Avaient des
ce que
peurs.
J'allais dire, tu crois qu'ils sont flippés
quoi. Ouais, apparemment, les gens criaient. Enfin, genre vraiment, ils avaient peur que le train arrive sur eux. Quoi. C'était vraiment.
ça devait être trop bien.
Donc, je pense que ça devait être vachement drôle à voir quand même.
Bah, surtout avec l'œil du mec qui connaît les cinémas
ça,
en 3D IMAX.
Non, effectivement, c'est pas mal comme truc. Décidément, Je suis un type qui a du mal à me décider. Donc j'ai encore deux trucs. J'arrivais vraiment pas à choisir.
Je t'en veux pas parce que j'en ai deux pour chaque aussi.
Ah bah cool. Alors je vais vers le plus ancien. 12 octobre, a priori, 12 octobre 1492. Christophe Colomb et son équipage qui posent le pied sur une île des Bahamas. Bon, voilà, c'est donc ce qu'on appelle, on va dire vulgairement, la découverte de l'Amérique, même si au final c'est qu'une île des Bahamas et que tout le continent reste à explorer et sera exploré après. Et au final, en vrai, c'est même pas Christophe Colomb qui est arrivé le premier en Amérique, hein. Il y a quand même des peuples qui vivent sur place, donc qui sont arrivés bien avant. Et maintenant, on est certain que les Vikings ils sont aussi arrivés en Amérique du Nord avant. Donc bon, mais disons qu'en tout cas, j'aurais bien aimé vivre cet événement qui a quelque part pour toute une partie quand même du monde et des gens de l'époque, le fait de découvrir complètement un nouveau, enfin d'ouvrir le champ, plus que l'événement lui-même, c'est tout ce qui va être lancé derrière, c'est vraiment découvrir un nouveau monde, des nouvelles terres à explorer, ce truc de le monde va encore au-delà de ce qu'on imaginait au final. Pour rappeler quand même, Christophe Colomb, il pensait arriver en Inde, hein. Le but de l'expédition, c'est aller vers l'ouest et traverser l'Atlantique pour arriver en Inde. On ne savait pas ce qu'il y avait entre l'Inde, on va dire, et l'Europe par l'Atlantique. Donc, il pensait en avoir pour 15 jours. Il en a mis à peu près une trentaine pour... voilà.
J'aime bien le petit contretemps. Alors, on va en Inde. Merde, il y a 5000 km de terre au milieu.
Ouais, c'est ça, c'est bon. En soi, on pourrait dire que c'est presque un échec, hein. Le truc est vraiment mal ficelé, mais... Mais voilà, je pense que j'aurais bien aimé découvrir cette être là à ce moment-là, de se dire tain, alors eux l'ont perçu comme un nouveau chemin déjà pour arriver, donc c'est vraiment un truc d'exploration, c'est un nouveau chemin qu'on pensait pas possible, mais en plus d'une et quand après ils se sont rendu compte que c'est pas seulement un nouveau chemin, mais c'est toute une nouvelle terre immense. Bon, alors sans parler de tout ce qui va suivre après, génocide des Indiens, tout ça,
oui.
Bon, ça, voilà, c'est le côté, c'est le revers de la médaille, on va dire. Mais le triste revers de la médaille, même. Mais voilà, découverte des Amériques, ça m'aurait pas déplu.
Ouais, je vois l'idée. Franchement, c'est... Après, ouais, rien que pour imaginer, tu sais, la tête du mec qui arrive, qui fait « Bonjour, c'est ici l'Inde. Par où on passe pour y aller? Il y a un raccourci au niveau de la route pour Delhi. Non, ici, vous êtes à Chicago, monsieur.
» Là, mais ouais, c'est bon.
Non, mais pas mal. Et du coup, le deuxième, ça aurait été quoi?
Alors, le deuxième, là, c'est un peu plus proche de nous. C'est la révolution de 1917 en Russie. La fin des tsars, d'une des plus grandes la fin des Romanov, une des plus grandes dynasties de rois, et puis surtout un tournant historique majeur de notre époque, parce que c'est le début d'une nouvelle démocratie, d'une démocratie à l'époque socialiste, avant qu'il y ait le coup de vis, on va dire, par les bolcheviks en octobre 1917, mais en tout cas. Vraiment cette période de mars 1917 à octobre 1917 où je pense que c'est tout le cours du XXe siècle qui est basculé par ce qui se passe en Russie au final, parce que derrière c'est une révolution, c'est mine de rien pour beaucoup de gens en Europe quand même l'espoir d'un nouveau modèle de société qui donne plus place aux ouvriers, aux pauvres, la fin des inégalités. Bon, alors l'histoire après va montrer que c'est plus complexe que ça et c'est peut-être pas totalement ce qui s'est passé, mais voilà, pour l'espoir. Pour tout ce que ça entraînait, j'aurais bien participé aux révolutions de Petrograd, Moscou, tout ça, quoi.
Je t'avoue que j'aurais été déçu si t'avais pas cité la Russie une seule fois dans une émission historique. J'aurais été un peu déçu. Mais oui, c'est une période passionnante aussi. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont parlé de Russie dans l'époque où ils aimeraient faire un tour dans la rédaction. Écoute, moi j'ai l'impression d'être très franco-français du coup dans mes références. Alors, j'avais la libération de Paris évidemment, dans le top 2 parce que, encore une fois, j'ai beaucoup parlé de la Deuxième Guerre mondiale.
Bonne grosse fête à mon avis le jour même.
C'est ça. C'est ça. Tu vois, tout ce qui est campagne de Normandie, remontée sur Paris et tout.
Dans le thème, moi je m'étais demandé un peu, sans le côté gore, mais je me suis dit que le débarquement aussi devait être un truc incroyable. Tous ces navires qui arrivent en même temps, au même moment sur la côte, et ces mecs qui se jettent à l'eau pour aller reconquérir une terre qui, au final, pour beaucoup, en théorie, ils en avaient pas grand-chose à faire.
Oui,
tu vois,
connaissent pas,
quand t'es John de l'Idaho et qu'à 17 ans tu débarques en Normandie, bon, c'est quand même.
C'est clair.
J'ai mis
Libération de Paris pour être très précis, mais clairement, du débarquement jusqu'à la Libération de Paris, toute cette phase-là est quand même assez incroyable en termes de courage des mecs, en termes de. Et puis tu l'as dit, quoi, de dispositifs.
Tous ces
bateaux qui arrivent sur les plages normandes le matin.
Je pense que sincèrement, les mecs, les Allemands, quand ils ont vu ça arriver, ils devaient quand même être aussi en alu total de.
Oh, okay. Tu m'étonnes. Donc après cette grande fête dans Paris qui devait quand même être incroyable, aucune mesure de distanciation sociale, pas de masque. Je veux dire, c'était vraiment, ça devait vraiment être fou. Mais j'ai pris une autre grande fête dans Paris pour changer d'époque, la Révolution française. C'est hyper cliché, tu vois, mais bon, c'est le jour de la fête nationale. J'aimerais bien voir ce qui s'est passé. J'ai pris Révolution française, mais finalement, c'est. Comment dire ? Parce que je crois qu'à la base, dans les règles, on avait dit on reste une semaine. Alors, c'était pour l'époque, mais pour l'événement, on peut faire pareil. Je ne vais pas rester toute la Révolution française, ça dure un moment.
Tu peux rester un petit mois à l'événement, si on va dire.
Autour du 14 juillet, on va dire.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Mais c'est vrai que sinon, c'est long. On oublie souvent quand même que Louis XVI, il a été décapité quasiment que 4 ans après la prise de la Bastille. Hein. Il y a un intervalle quand même assez long où il reste plus ou moins au pouvoir avant la fuite à Varennes, etc. Donc voilà, mais le bouillonnement populaire du 14 juillet, et puis bon, Paris sans voiture, les rues piétonnisées, quand même quelque chose, quoi. C'est le Paris dont Anne Hidalgo rêve encore la nuit. mais moins les excréments jetés au milieu de la rue, évidemment.
Ouais, c'est
mais,
ça.
Quoique, ça dépendait. pour le bouillonnement populaire, je taquine évidemment, je n'habite même plus à Paris. Pour le bouillonnement populaire, et puis encore une fois, ce soulèvement, quoi. Ce soulèvement, et tu parlais de basculement dans la démocratie avec. Ça bascule dans la terreur au bout d'un moment, évidemment.
Oui, mais. C'est le problème, c'est que souvent on a du mal à installer un.
Voilà. Mais encore une fois, le point de bascule est quand même est toujours un moment hyper intéressant dans l'histoire. Et donc, moi, c'est vraiment un endroit où j'aurais bien aimé être. C'est cette prise de la Bastille et de encore une fois, cette Révolution française en général, dont on parle tellement à l'école, pour le coup, autant il y a des points d'histoire qui sont éludés, autant celui-là, tu peux pas le manquer.
Non, c'est sûr. Bah, tu vois, presque en contre. En contre-champ de ça. Je serais aussi curieux de voir, parce qu'il faut rappeler, c'est quand même aussi un mouvement très parisien au final. Enfin, tout se passe sur Paris, et après, ça se. ça découle sur reste avec la fin des privilèges, tout, déclaration de droits de l'homme, tout ça. Mais
c'est pour ça que vous avez pris la grosse tête depuis.
Non mais tu vois, du coup ce que j'allais dire, c'est presque en contre-champ, je serais intrigué de voir aussi comment dans certaines autres villes, autres endroits du territoire, c'est vécu à ce moment-là, parce qu'en plus, enfin t'as pas tout ce qu'on a maintenant pour vivre un événement sur le direct, donc presque voir enfin les soubresauts aussi que ça peut créer ailleurs, tout ça, enfin.
J'ai cru entendre justement dans le documentaire que je regarde sur Napoléon que la Vendée était pas tout à fait d'accord, par exemple.
Oui, je pense qu'il y a 2-3 endroits où c'était pas bon.
Je crois même que Philippe de Villiers n'est toujours pas d'accord. j'ai cru entendre dire.
Bah d'ailleurs, il est tellement pas d'accord, je crois même qu'il en a fait un parc, non ?
Oui, il paraît. Alors, je vais pas encore m'embrouiller sur le Puy du Fou, j'ai déjà fait sur Twitter, mais... Mais oui, c'est une expérience. Voilà, la prise de la Bastille, on a fait le tour des événements. Après, il y en a plein. D'ailleurs, en parlant de... Bon, alors, c'est pas d'événements précis, mais c'est vraiment pas... c'est vraiment pas d'ailleurs par idéologie forcément que je veux voir la prise de la Bastille. C'est-à-dire que j'aurais été aussi curieux de voir comment on vivait sous Louis XIV ou des choses comme ça. C'est parce qu'il faut choisir, mais il y a tellement de périodes intéressantes en fait pour des critères très différents, tu vois.
Dans la rédac, quand quelqu'un nous a dit pareil, l'atterrissage sur la Lune, alors je l'ai pas pris pareil parce qu'en rapport à notre épisode sur les complots, je me suis dit si ça a jamais existé, j'ai l'air con que je me retrouve dans un studio à Los Angeles.
Ah, mais ce serait encore mieux. Ah, j'aimerais trop être là, tu sais. Mais oui, j'aimerais trop quand ils sont là. Bon, alors, Neil, là, tu vas descendre. Attends, on t'a écrit le script, on va faire des panneaux. Et tu sais, en fait, il y avait un mec qui était hors champ qui tenait un grand panneau avec marqué un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Tu sais, ou alors, tu vois les prises où le mec est tombé, tu sais, il y a un bêtisier et tout.
Oui, bah, du coup, non, mais c'est vrai que participer à ce plus grand canular, c'est pas mal en vrai.
Ah ouais, ce serait.
C'est vrai qu'il y a
aussi.
Bon, bah, c'est bon mortel. Dans les deux, ça marche dans les deux sens, du coup.
Ce serait vraiment mortel. À quelle époque tu aimerais faire un tour? Donc, alors là, il y a beaucoup de choses qui ont été citées dans la rédaction. La Renaissance à Florence, l'apogée de l'Empire romain, l'Athènes période Périclès. Il y a 10 ans, quand j'avais pas de gosse, je vais pas dénoncer celui qui nous a dit ça. L'ère féodale au Japon, l'époque des cow-boys. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors, premier point quand même à éclaircir pour tout le monde. Parce que moi, j'avais préparé l'émission en étant persuadé qu'on pouvait pas aller dans le futur. Après, on a finalement dit qu'on pouvait aller dans le futur.
Oui, bon. Mais après, c'est plus dur. Tu sais pas ce que tu trouves. Pour le coup, typiquement, si tu te propulses dans 400 ans, qu'est-ce que tu trouves ? Donc, enfin, si tu fais ce choix-là, c'est vraiment pour l'inconnu.
Ouais. Moi, après, le truc, c'est que moi, j'avais l'impression que tout le monde prenait le futur, quoi, quasiment, une fois qu'on avait dit qu'on pouvait
aller. Oui, c'est vrai. Ce que je trouve... un peu étonné. Alors, non, je suis pas étonné parce que la curiosité d'aller vers quelque chose que tu ne connais pas du tout, c'est sûr que c'est intriguant, mais ça peut être tellement déceptif que...
Moi, en fait, je suis tenté d'y aller juste pour être sûr que c'était bien aussi... Parce que comme je suis un pessimiste, si tu veux, moi, j'ai envie d'y aller juste pour rester 5 minutes et faire « Vous voyez, je vous l'avais dit. » Et puis je repars, tu vois. Juste ça, parce que... ça s'annonce pas très bien, forcément. Ça s'annonce pas forcément bien. Si, disons que si l'histoire dont on parle nous a dit qu'elle était cyclique un petit peu, hein, avec surtout l'histoire contemporaine, avec crise, montée au pouvoir de gens un peu plus énervés que d'autres, etc. Tu vois, je dirais qu'on n'est pas forcément dans le meilleur moment de la vague.
C'est sûr.
Donc je suis pas forcément fan d'aller dans ce qui va se passer dans, on va dire, 20-30 ans. Après, à quoi tu penses que ça va ressembler dans 100 ans ?
Ouais, c'est ça. 100 ans, je sais pas. Hein. Quand tu vois les gens au début du siècle, ils imaginaient 100 ans après, ils imaginaient des trucs absolument fous. Et au final, alors, si, par rapport à leur quotidien, c'est sans aucun doute assez incroyable. Mais on n'a toujours pas les voitures volantes, on n'a toujours pas les.
Après, on aura bientôt les gens commandés par vaccin 5G quand même. C'est un progrès.
ça se trouve tu vas te propulser avec que des gens contrôlés par puce, mais je sais pas, moi j'avoue que c'est pas ce qui me...
J'arrive pas, c'est pareil, j'ai pas d'imagination pour ça, tu vois. Genre, je pense pas que ce sera très différent, sauf en...
En vrai, moi j'ai du mal à l'imaginer parce que les avancées technologiques ces 20 dernières années sont tellement de plus en plus rapides et amènent loin. Enfin, je veux dire, il y a 20 ans, Internet, la 4G et tout ça,
c'est clair.
C'était qu'une sorte de mirage, quoi, tu vois. Et en 20 ans, nos modes de vie ont quand même été pour une partie du monde. Alors on sait très bien qu'il faut toujours, quand on dit ça, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais pour une part, en tout cas pour nous en France, notre mode de vie a quand même pas mal été bouleversé, donc puis, en seulement 20 ans quoi.
Et puis le problème en plus, c'est la différence entre l'invention et la finalité qui va en être faite. C'est-à-dire que, tu vois, genre, quand les mecs ont inventé Internet, par exemple, et même quand on a commencé à l'utiliser, on était là genre, waouh, c'est trop cool, on peut se réunir sur des forums, on peut chatter et tout. Et maintenant, on est là genre, qui aurait cru qu'on pourrait véhiculer la haine aussi vite? Vraiment, cette invention est merveilleuse. Regarde, grâce à la fibre, je peux envoyer mes insultes sur Twitter beaucoup plus rapidement. Donc je sais pas, j'ai même pas envie d'imaginer en fait comment on va détourner les inventions en plus.
Ouais, non mais c'est pour ça, moi le futur c'est pas forcément... Puis alors bon, bah du coup forcément mon côté étude d'histoire, je suis plus intéressé bah, ouais, par aller vraiment voir comment ça s'est passé avant que... Je sais pas, je me garde la surprise de ce qui se passe bientôt quoi.
Alors moi j'ai une question préliminaire avant de te donner mon choix. Est-ce qu'on a le droit d'aller dans des époques où il n'y avait pas d'hommes?
Ouais.
Je sais pas si tu vois où je veux en venir.
Ouais, je vois, je pense voir où tu veux en venir. Oui. Si tu veux.
Disons que j'adore Jurassic Park.
Ouais, mais alors tu... Ouais, tu... mais du coup, je sais pas, moi je trouve c'est un peu chiant, il y a personne avec qui parler quoi. Enfin, c'est un grand safari quoi.
Ouais, mais bon, quand tu sors dans les rues en confinement, il y a personne avec qui parler non plus. non, mais oui, c'est un grand safari, on est d'accord. Ouais, mais tu vois, du coup, franchement, si tu peux, s'il y a moyen de voir un tyrannosaure en vrai, ah moi ça me, oh, ça m'ambiance de ouf. Ah, franchement. Ça m'ambiance de ouf. Franchement, c'est peut-être parce que j'ai re-regardé Jurassic Park il y a une semaine. Mais peut-être, je suis bouillant pour voir un tyrannosaure.
Ouais, je sais pas. Ouais.
Bon, après, encore une fois, hein, j'ai vérifié parce que je voulais voir quelle était la distance. Il y a 65 millions d'années entre le
dinosaure. Ah oui, oui, non, ça fait longtemps à rester sur place avant de rencontrer quelqu'un.
Jurassic Park a brouillé les pistes dans mon esprit, si tu veux. J'ai eu besoin de regarder sur Wikipédia. Tu sais, j'étais là genre, attends, ils étaient loin ou pas quand même?
Ouais, non, là c'est... Du coup, entre le moment où les dinosaures disparaissent et où les premiers hommes arrivent, t'attends un peu tout seul un petit moment, quoi.
Et tu sais que je suis en train de réaliser, d'ailleurs, il y a 65 millions d'années, les dinosaures, et on trouve des fossiles. Je me demande pourquoi il n'y a pas encore plus de théories du complot autour de ça. Parce que tu sais, genre, pourquoi il n'y a pas encore plus de gens qui nous disent que les dinosaures sont faux, n'ont jamais existé?
C'est vrai que, ouais, finalement, il y a peu de...
Parce que bon, 65 millions d'années fossiles et tout, là, tu vois, il doit y avoir moyen de faire des raccourcis pour que les mecs trouvent des théories comme quoi ça n'existe pas, tu vois.
Non, c'est vrai que c'est plutôt épargné, ouais. Mais parce que je crois que c'est leur rêve d'enfant, les dinosaures, en fait.
Ouais,
tout le monde aime ça,
tu peux pas toucher à ça, franchement.
Ouais, je crois que c'est...
les tyrannosaures, les diplodocus, tu vois, genre faire un tour à d'autres diplodocus.
Puis, surtout que je suppose que... Alors, j'ai pas une connaissance de tout ce qu'on dise tous les religieux, mais en tout cas, pour une partie des religieux, ça se justifie, c'est une créature que Dieu a créée comme une autre, tu vois, donc t'as même pas besoin de...
Ah, peut-être, ouais.
T'es même pas obligé de la renier, tu vois, potentiellement.
Ouais, ouais. C'est vrai. Revenons donc aux périodes où des humains étaient sur la Terre. À quelle époque, donc, tu vas habiter pendant une semaine ou un mois, d'ailleurs, un petit stage?
Ouais, un peu plus, même, je pense.
Un peu plus, ok.
Ouais, je serais... Eh bien, écoute, ça a été dit aussi chez nous. Moi, je resterais bien quelques mois, voire... pourquoi pas quelques années si je faisais partie de l'élite romaine à l'époque de l'apogée de l'Empire romain. Donc quand on dit l'apogée de l'Empire romain, en vrai, quand on parle de ça, c'est plutôt du 1er au 3e siècle après Jésus-Christ, grosso modo, hein, même voire 2e siècle. C'est ce qu'on appelle généralement la période des Antonins et Auguste, tout ça. Donc voilà, c'est le moment où l'Empire chrétien est le plus étendu. Rome a vraiment une universalité, une centralité. Ça parle latin à peu près partout. Tu vois, je me dis, être un noble romain, la grande villa de vacances dans le sud, en Méditerranée, les grappes de raisin.
Les orgies.
Ouais, la culture. Non, mais en plus, en vrai, je crois pas. Je suis athée. Mais alors, si j'avais dû croire, je crois que j'aurais préféré être polythéiste, me dire qu'il y a plusieurs dieux. Je trouve ça un peu plus fun qu'un seul qui requiert toute ton attention. Tu vois, j'aime bien l'idée qu'il y a plusieurs dieux pour plusieurs choses. Et donc le côté polythéiste des Romains me...
Mais les Romains étaient polythéistes au début, ils sont devenus chrétiens sur la fin, non?
Ouais, sur la fin plutôt. Ouais. Bah du coup, c'est plus vers le 3e, 4e siècle.
D'accord, oui. Avant la...
Ouais, non, quoi.
C'est vrai que quand tu dis Empire romain aux gens, on pense souvent, et moi le premier, Astérix, Jules César, c'est 44 avant Jésus-Christ, parce qu'on parle, on pense beaucoup à Jules César. Alors qu'en fait, l'Empire romain, ça s'étend, si je ne dis pas, jusqu'au 6e ou 7e siècle.
Eh ben, c'est jusqu'à la chute de Constantinople, donc c'est... et là, je vais dire une bêtise à tous les coups.
Je crois que c'était 600 et des poussières. Hein.
J'ai un trou là sur la chute de...
Je suis en train de vérifier en même temps.
Création de l'Empire romain byzantin, donc tac, 4, 5, 4... Ah, j'aurais dit 5e, mais bon.
Ah oui, pardon, 5e. Romulus Augustule, c'est jusqu'à 476.
Eh ben voilà, 5e, donc.
Voilà, donc 5e siècle.
Et donc vraiment, l'apogée, c'est, très, très ouais, long, c'est le premier siècle après Jésus-Christ. Et voilà, c'est un peu une des civilisations qui a posé beaucoup de bases, quand même, mine de rien, à notre monde. Mmh. Hein, la langue... l'art, beaucoup de l'art, de l'urbanisation, les routes, enfin voilà, je veux dire, c'est l'administration, bref, je me dis que si t'avais, si tu faisais partie de, parce que bien sûr, c'est une époque, si t'étais esclave ou pauvre, je pense qu'il vaut mieux être pauvre en 2020 qu'à l'époque romaine, enfin, quoique ça pourrait se
débattre. Ça dépend du pays. Hein.
Oui, ça pourrait se débattre à la limite, ça pourrait se débattre clairement, mais voilà, un noble romain, je pense que c'est pas mal, donc ça m'aurait pas dérangé, ouais.
Bah écoute, on fera une coloc parce que j'avais la même.
Puis les combats de gladiateurs au Colisée le week-end pour s'amuser.
Bah c'est ça, nous on aime déjà le football américain, tout le monde nous dit que c'est les gladiateurs, donc il fallait qu'on aille à l'époque qui va avec. Non mais alors j'ai fait mes petites recherches, on va éviter 23 avant Jésus-Christ parce qu'il y avait une épidémie de peste, j'ai vu. Donc c'est moyen, mais on a déjà donné pour les épidémies cette année, mais encore une fois, je ne vais pas reprendre tout ce que tu as dit parce que c'était exactement les mêmes raisons. En cherchant bien vraiment sur le côté époque complète comme ça, qui avait la curiosité, ouais, c'est la première qui me venait. Et comme tu dis, il y a tout ce côté en avance sur leur temps, quoi. Il y avait quand même tout un côté en avance. Après, alors là, encore une fois, je parle sous ton contrôle parce que tu es bien plus calé que moi, mais on est d'accord que c'était une république au début, notamment dans la période avant Jésus-Christ, pour basculer doucement vers un régime très autoritaire.
Oui, oui, oui. Bon, alors république avec toutes les précautions qu'il faut prendre à cette époque. Enfin... République et pas démocratie non plus totale. Ouais. Hein, je veux dire, c'est un système où tu avais des gens qui représentaient effectivement la plèbe et d'autres qui représentaient le patriciat, donc la noblesse, qui était dans une chambre, tout ça. Mais bon, de là à dire que c'était les débuts, hein, fallait poser les bases d'une pseudo-démocratie. Bon, et après, effectivement, ça devient un empire. Donc les empereurs, Jules César, tout ça, ça tourne vers l'empire. Plutôt une conception plus autoritaire, on va dire, du pouvoir, moins de partage. Après, d'un point de vue vraiment individuel citoyen, en termes de droit, c'est pas autant marqué que ce que pourrait être au XXe siècle un passage de vraiment d'une république à une dictature, tu vois. T'as pas une perte de droit aussi importante que certains pays ont pu le connaître en basculant d'une démocratie dans des temps un peu plus récents, quoi.
D'accord. Bah en tout cas, encore une fois, la même chose. L'Antiquité romaine. Est-ce qu'on récapitule du coup ? On fait notre top 3 où on va, avec qui on mange et tout ça ?
Ouais, allez.
Donc s'il faut en garder qu'un, le personnage historique que tu rencontres pour un dîner.
Eh ben écoute, je vais rester sur Gengis Khan.
Alors, Gengis Khan, l'événement que tu voulais vivre.
Allez, je vais partir sur la révolution de 1917.
La révolution de 1917 et l'époque où tu irais faire un tour, donc l'Antiquité romaine. Pour moi, ça faisait Jean Moulin pour le dîner, l'événement que je voulais vivre, la Révolution française, et l'époque, l'Antiquité romaine aussi. Faut-il voyager dans le temps ? Non, la réponse est évidemment oui.
Ah bah, de toute façon, je pense que si t'as l'occasion, qui dirait non ?
Ah bah, je sais pas.
Tu vois, peut-être il y a des gens, mais...
Bah, le problème, c'est que si demain on peut le faire, je pense pas qu'on aura les mêmes règles. C'est-à-dire que tu seras pas en sécurité quoi qu'il arrive. Tu vois, genre si tu débarques en plein milieu de la Révolution française ou des invasions mongoles ou machin.
L'époque de la peste en Europe.
Et en plus, on parle pas la langue. Ouais, oui, c'est ça. La peste et la barrière de la langue. Du coup, faudra mieux se téléporter en France.
C'est sûr.
Et encore, je pense que si on débarque en France de 1789 avec la manière dont on parle maintenant.
Ouais, je suis pas sûr que ça marche très bien suivant où tu te téléportes.
Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon, voilà pour le petit voyage dans le temps, petit jingle, et on se retrouve.
Doc, c'est moi, c'est Marty.
Non, c'est impossible. Je viens de te renvoyer vers le futur.
Oui, je sais, vous m'avez aidé à retourner vers le futur, mais me revoilà. Je suis de retour du futur.
Nom de Dieu.
Je suis de retour du futur, Raphaël. Bon, en espérant que ça arrive un jour. Les faut-il des auditeurs, Raphaël, on l'a dit, on va faire une petite pause. Donc, n'hésitez pas pendant la pause à nous envoyer vos idées de faut-il. On en a reçu quelques-unes ces derniers temps, notamment sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on regarde de temps en temps. Mais on a encore pas mal d'idées. Hein, les mauvais films, les films de sport. On avait aussi quelle secte faut-il choisir si on veut être un peu plus border. On aime bien les sujets un peu. C'est un peu difficile. Là, faut-il bien, se mettre au télétravail? On ne sait pas si on sera le télétravail.
Non, les sectes.
Ah oui. Bon oui, faut qu'on regarde ça. Les réseaux sociaux, faut-il s'expatrier? Il y a pas mal de choses. Faut-il s'expatrier? On l'a validé. Faut-il se mettre au télétravail aussi? Faut-il laisser les réseaux sociaux valider eux-mêmes les faits? Moi, je suis toujours pour qu'on simplifie à faut-il les réseaux sociaux tout court et que je sois le contre pendant une heure. Mais voilà, je suis toujours décidé à ça. On passe au fait d'entrer l'accusé, évidemment. Le fait d'entrer l'accusé, Raphaël, c'était à toi. Est-ce que tu en as un sous la main?
Ouais, écoute, bon, alors c'est un classique. Je pense que les grands fans de fait d'entrer l'accusé l'auront sans doute déjà vu, mais j'avoue que j'ai pas eu le temps de me replonger dans un en particulier, donc je me suis dit,
c'est les fêtes de Noël, c'est le moment des classiques.
Ouais, c'est ça. Allons vers les classiques, du coup, et j'espère qu'on en a pas déjà parlé d'ailleurs, mais je crois pas. Donc c'est le fait d'entrer l'accusé sur Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre.
Non, ça me dirait. Je sais plus. Ouais, je l'ai déjà vu en tout cas, mais je sais plus si on en a parlé.
Voilà, donc c'est un tueur en série français qui a agi à Nogent-sur-Oise dans les années 70. Plusieurs vagues de meurtres qui, jusqu'à un long temps, en tout cas, il commence en 69. Il a arrêté en 76. Et il faut attendre en fait 74 pour que les policiers relient les dossiers entre eux des différents meurtres. Il y a 7 ou 8 meurtres. Et pendant plusieurs années, en fait, personne ne relie ces différents meurtres. Donc voilà, donc c'est toute l'enquête autour qui est vachement bien, le profil du tueur, donc un classique, parce que c'est vraiment un peu si vous avez vu, alors bon, ça, la référence plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est, l'enquête ça fait un peu penser à genre un épisode de Maigret, quoi. Enfin, la façon dont l'enquête s'est passée, avec un peu la police à papa, pas très
c'est le terme que j'allais reprendre, parce que je sais que Christophe Ondelat aime bien le reprendre. Il y avait ce côté un peu là, ouais, c'est ouais. La police à l'ancienne, quoi.
Ouais, c'est ça. Donc bon, c'est plutôt sympa à suivre. C'est un classique du genre. Donc Marcel Barbeau, le tueur de l'ombre.
On passe aux recommandations de l'émission en global. Est-ce que c'est lié à l'histoire ou pas, du coup, ta recommandation?
Eh bien, écoute, je vais recommander un podcast que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps grâce à des propositions Twitter de gens sur Twitter, voilà. On va dire ça comme ça. C'est un podcast cinéma qui s'appelle Année-Lumière. Donc Année-Lumière au singulier, pour le coup. Mmh. Qui est en fait un podcast cinéma qui revient où le concept, c'est... Un podcast, une année, en fait. Donc, le premier podcast, c'est l'année 1974. Le troisième, c'est 1985, bref. Mmh. Et donc, l'animateur est tout le temps à un accompagnateur. Ils reviennent sur cette année-là dans l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qu'elle représente? Quels sont les films qui les ont marqués à cette époque? Tout ça. Donc, c'est vachement bien parce que ça permet un peu d'avoir une vision complète sur le cinéma à ce moment-là. Mais aussi, ça vous permet de redécouvrir... de découvrir des petites pépites qui plaisent à des gens par rapport à ces années-là. Donc voilà, c'est une de mes recos du moment.
Ok, très bien. C'est vrai qu'il y a une densité de podcasts cinéma de qualité qui est quand même de plus en plus, de plus, en plus importante. Et bah écoute, je suis resté sur l'histoire. Je l'ai effleuré pendant l'émission. J'ai un documentaire. Alors, il y a un documentaire sur Amazon Prime qui s'appelle Napoléon.
Ok.
C'est une recommandation. Alors, je connais. En fait, je me disais que j'en connaissais pas assez sur Napoléon. C'est ce que je te disais. Je suis un peu fixé Deuxième Guerre mondiale. Donc, je me suis dit, je vais élargir un petit peu. Et puis, Napoléon, il faut quand même en savoir plus. Alors, le documentaire a deux aspects. C'est-à-dire qu'il est très bien factuellement. On apprend énormément de choses. Par contre, après, vous attardez pas trop sur le visuel. C'est-à-dire que je sais pas comment dire gentiment que c'est particulièrement laid. mais okay. c'est particulièrement laid. C'est-à-dire que c'est des reconstitutions en images de synthèse, on dirait un jeu en deux dimensions de PlayStation 1.
Ah oui,
c'est...
d'accord.
C'est assez laid. Même les fonds verts sont assez compliqués. Quoi. Il y a des moments où tu as des intervenants sur fond vert où tu vois que le bras il est mal détouré. Enfin, il y a des trucs. C'est pas ouf. C'est coproduit par AB Productions. Alors, si tu veux, sur le coup, quand je l'ai lancé, parce que j'ai vu Napoléon, tu vois, je lance.
Ouais.
Bah, et alors, sur le coup, je me suis dit coproduit par le truc d'Hélène et les garçons, tu vois, c'est un peu.
Genre ce AB Productions là.
Et bah écoute, ils ont l'air d'avoir des filiales où ils font d'autres trucs, ouais. Mais sur le coup, je t'avoue que quand j'ai lancé le truc et que je vois le générique de début avec marqué AB Productions, je me suis dit, attends, j'ai lancé le bon fichier là, il y a un truc ou, bon. Mais le fait est que factuellement, c'est intéressant. J'ai fini, je crois, le deuxième épisode. C'est une série. C'est vrai qu'on en apprend beaucoup sur les origines de Napoléon, sur ses premières batailles, sur la tactique, comment ont été gérées toutes les tactiques, etc. Après, encore une fois, visuellement, purée, on dirait les Sims, quoi. C'est assez vilain. Mais historiquement, c'est intéressant, donc je vais le recommander. Et puis voilà, après, tout le monde n'a pas les moyens des docu Netflix, visiblement. Donc voilà. Et oui, je traîne sur Amazon Prime en ce moment, on m'a filé des codes et j'ai résilié mon Netflix, donc j'ai trouvé ce truc-là. Donc ça s'appelle Napoléon, je crois, tout court, et c'est sur Amazon Prime.
D'accord.
Il se peut que vous ayez Amazon Prime, je veux dire, tout le monde s'est déjà fait truander en oubliant de décocher la case, et c'est gratuit au bout d'un mois. Donc je pense que ça représente la moitié des abonnés Amazon Prime, c'est les gens qui ont oublié de décocher l'essai gratuit à la fin de l'essai gratuit. Voilà, Napoléon, donc période évidemment passionnante de l'histoire également. Bah écoute Raphaël, c'est comme ça que se termine le 17e épisode de Channel Random.
Bah ouais, bah, c'était marrant de se replonger comme ça, de voyager.
Bah voilà, opération freestyle un peu, on prend des thèmes, n'hésitez pas du coup si vous avez des thèmes aussi comme ça d'improvisation et d'imaginaire, on verra ce qu'on peut faire, on garantit pas, on garantit pas de tout faire. Tu sais genre vous nous donnez un scénario, vous êtes en 2024, la Covid existe toujours et désormais les gens meurent par simple contact de l'air quand vous sortez dans la rue. Tu sais, genre,
que faites-vous?
Attends, j'avais entendu un scénario comme ça incroyable une fois, je l'avais lu sur un site internet, je crois que c'était Deadspin. Les mecs s'imaginaient qu'on vivait dans un monde où les dinosaures, alors pas tous les dinosaures existaient encore, mais les ptérodactyles existaient encore. Et donc en fait, quand tu sortais dans la rue, t'avais toujours le risque de te faire attraper par un ptérodactyle et de mourir. Et donc le mec s'imaginait, tu sais, quelle vie on aurait si c'était comme ça. Tu sais, en mode genre les gens rentreraient chez eux le soir en disant « Ah mince, mon mari s'est fait attraper par un ptérodactyle aujourd'hui, il est mort. » Tu vois, et genre ce serait la norme, quoi.
Ah putain.
J'aime beaucoup ce genre d'idée.
Voilà, à mon avis, je suis étonné qu'il n'y ait pas encore un mauvais film dessus, un petit nanar qui a repris ce scénario, parce que c'est typiquement...
Est-ce que tu parles pas du prochain Jurassic Park? Parce que je te rappelle que dans le prochain Jurassic Park, les hommes et les dinosaures doivent apprendre à cohabiter.
Ah oui, c'est vrai.
Oui.
Oh là là. Oh là
et ouais,
là.
Donc ça va être un nanar avec beaucoup de pognon en plus. Donc ça va être encore mieux.
Je sens la gêne là.
Celui-là, il va être affreux. Mais
en plus
mais
il faut revenir les anciens acteurs non en plus
oui,
y a
oui,
pas
oui.
du fan service
dans...
oh
ah si si total
oh là là,
si si total
oh là là, oh là là.
Fan service mais je ça sent les Raptors lâchés dans Los Angeles quoi tu vois
oh là
donc
là, ça va être terrible.
Ah oui alors ça va être terrible et compte sur moi pour aller payer ma place quand les cinémas seront ouverts parce que celui-là je veux le voir.
Bah comptez aussi pour nous pour débriefer dans un channel random je pense hein, parce que
ah celui-là je suis chaud bouillant, je peux te faire un spécial faut-il aller voir tous les Jurassic Park ou un truc comme ça parce que c'est une telle déchéance cette saga au fil des épisodes c'est vraiment ouais je suis vraiment impatient, c'est une note positive tu vois, avant d'aller en vacances. On est solidaires je crois que c'est ton cas aussi hein, pour la réouverture des cinémas.
Tout à fait.
Écoute, moi, pour ce Jurassic Park-là, notamment, quoi. C'est-à-dire que pour vivre ce moment-là, je veux que les cinémas rouvrent, je veux payer ma place, je veux mon pop-corn, quoi. Donc on est impatients de les retrouver pour ça. On se retrouve donc au mois de mars, on l'a dit, on fait une petite pause pour faire ça proprement à notre retour. Pour nous suivre, vous nous retrouvez évidemment pour parler de NFL sur TheJournalActu.com. Il se passe beaucoup de choses fin décembre et janvier, il y a les playoffs, il y a le Super Bowl, il y a tout ça, donc on va travailler là-dessus tranquillement, prendre une petite pause après et revenir probablement en forme au printemps. Vous pouvez vous abonner au podcast quand même sur toutes les plateformes habituelles et sur YouTube. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des suggestions de faut-il sur Apple Podcasts. Je vous avoue que c'est plus simple C'est plus centralisé, je ne suis pas toujours sur Twitter. Mais si vous voulez laisser sur Twitter, vous pouvez aussi. C'est @randompod. Même chose sur Facebook. On vous souhaite des très bonnes fêtes de Noël à tous si vous nous écoutez juste avant les fêtes, au moment de la mise en ligne de ce podcast. Très bonne fête à toi aussi, Raphaël.
Eh ben de même, et à tout le monde.
Très bonne grosse fête du jour de l'an, tout ça, tout ça.
Ah, bon, on va faire ce qu'il faut quand même pour que ça aille.
Écoute, moi, c'est un peu le moment où je raconte ma life, mais... En général, tous les ans, moi, ça se termine à deux avec un truc picard parce que on a eu la flemme ou qu'on n'a pas été invité à des trucs ou parce qu'il y avait trop de boulot ou machin et qu'on sort pas. Donc, moi, en un sens, ça vaut un peu que tous les gens vivent ce que je vis, ce que je vis déjà tous les ans. Tu vois, tu sais, le mec cruel. voilà. Donc, encore une fois, pour cet épisode de Channel Random, on vous dit à très bientôt. Merci encore, Raphaël.
Merci
et très bonne fête à tous. Ciao, ciao.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in...
opinions.
We do that in every episode, too.
We're professional unprofessional, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.